a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous en ce vendredi 16 août 2019. L'administration américaine a fait état cette semaine d'une mesure visant à refuser l'octroi de visa et de carte de résident temporaire aux personnes ne disposant pas de revenus suffisants ou bénéficiant d'aides sociales, de bons d'alimentation, d'aides au logement ou de la couverture Medicaid. Deux invités pour nous commenter cette actualité américaine, Florence Messi, membre du Parti républicain, et le professeur Emilio Viano de l'American University. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit éclairage sur le sujet. Arturo Balbino est entré illégalement aux États-Unis il y a 14 ans. Il est marié à une Américaine et ses enfants sont nés ici. Son employeur, une entreprise de construction, lui a octroyé une lettre lui garantissant son emploi. Pourtant, en mars dernier, sa demande de carte verte a été rejetée. La raison, l'utilisation par sa famille de bons d'alimentation et de Medicaid, des prestations destinées aux ménages à faible revenu.
Je veux être optimiste et dire que tout va bien se passer pour que je sois de nouveau avec ma famille. C'est très difficile de penser que je ne pourrai pas retourner voir mes enfants.
D'autres immigrants considérés comme un fardeau pour les contribuables risquent de se voir refuser le statut légal. Ken Cuccinelli est directeur par intérim des services américains de l'immigration.
Le gouvernement du président Trump défend à nouveau les idéaux d'autonomie et de responsabilité individuelle en s'assurant que les immigrants soient capables de subvenir à leurs besoins et de réussir ici en Amérique. Notre mesure empêche les étrangers susceptibles de devenir une charge publique de venir aux États-Unis ou de rester ici et obtenir une carte verte.
Désormais, cela va toucher tout migrant qui reçoit une ou plusieurs aides sociales pendant plus de 12 mois sur une période de 36 mois. La mesure entrera en vigueur à la mi-octobre et concernera plusieurs centaines de milliers de personnes défavorisées. Cristobal Ramon est un expert en politique d'immigration au Bipartisan Policy Center.
Cette règle ayant trait à la charge publique a d'ores et déjà dissuadé certaines personnes d'essayer d'accéder aux aides sociales, simplement parce qu'elles craignent d'être détectées par les autorités et en ce qui concerne, par exemple, les contrôles d'immigration ou d'être ciblées.
Le président Donald Trump est candidat à la présidentielle de 2020. Sa fermeté en matière d'immigration est bien vue par ses supporters, d'après Cristobal Ramon.
Pour ses partisans, c'est vraiment une victoire pour le président, quelque chose dont il pourra se vanter à l'avenir, surtout si les démocrates continuent à dire qu'ils veulent étendre les aides sociales aux immigrés clandestins.
Les nouvelles règles n'affectent pas les programmes d'immigration à caractère humanitaire pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Elles prévoient également des exemptions pour les victimes de la traite humaine et de violences domestiques. Elles ne touchent pas non plus l'immigration familiale, car les citoyens qui parrainent des membres de leur famille pour une carte verte doivent déjà prouver qu'ils peuvent s'acquitter des charges financières. Et voilà, il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. La conservatrice Florence Messi, elle est d'origine camerounaise et proche de l'élue républicaine au Congrès américain, Kathy McMorris Rogers, de l'État de Washington. Bonsoir, comment allez-vous?
Bonsoir Jacques, je vais bien. Merci de m'accueillir à l'antenne.
Je vous en prie. Également avec nous, Emilio Viano, professeur à l'American University, tous deux en ligne de la région de Washington DC. Bonsoir professeur.
Bonsoir. Merci pour l'invitation.
Je vous en prie. Merci vous-même. Florence Messi, je commence par vous. Alors, comment pouvez-vous justifier les nouvelles règles annoncées lundi dernier par le gouvernement de Donald Trump?
Jacques, je vais vous le dire, je vais aussi le dire à tous les auditeurs qui nous écoutent. Hier encore, le président Trump était à Manchester, au New Hampshire, et il disait, je suis le président des États-Unis, je ne suis pas le président du monde. Ceci indique que le président Trump continuera à se focaliser prioritairement sur les problèmes des Américains et accessoirement sur les problèmes du reste du monde. Et en ce qui concerne les mesures d'immigration, moi je vais le dire ici, ne regardons pas à la personne, ne regardons pas Trump, ne regardons pas le président Trump. Mais il y a quelque chose de bon dans les mesures d'immigration du président Trump. Je vais parler ici en tant qu'Africaine de la diaspora et conservatrice en même temps. Je dis, ces mesures d'immigration du président Trump sont un appel en direction des autorités publiques de l'Afrique. Qu'est-ce que le président Trump veut leur dire? Il leur dit, occupez-vous de vos populations, occupez-vous de vos populations. C'est un appel pour la jeunesse africaine. Le président Trump veut leur dire, vous avez la responsabilité de transformer l'Afrique là où vous êtes. Nous allons vous aider en continuant à vous accompagner comme on le peut, mais la responsabilité de votre avenir et de l'avenir du continent africain dépend de vous. Et en même temps, c'est un message à la diaspora africaine d'Amérique. C'est un appel à s'impliquer davantage au développement de nos pays d'origine. Jacques, je puis vous le dire sans me tromper que nous, de la diaspora américaine, nous sommes une des diasporas les plus éduquées. Nous avons les compétences, nous avons les ressources pour travailler avec les pouvoirs publics et nos frères qui sont restés en Afrique, mais nous n'avons pas la volonté.
Mais donc, Florence, mais si, évidemment, on l'a compris.
C'est un appel.
Oui, alors ces partisans diront également que le locataire de la Maison-Blanche demeure ainsi fidèle à son credo d'immigration au mérite. Mais Florence Messi, ces mesures ciblent-elles avant tout des millions de travailleurs majoritairement hispaniques qui occupent généralement des emplois peu rémunérés?
Il y a quelque chose qui m'a frappé pendant que nous sommes en train de parler, pendant que le problème d'immigration est en train de faire rage à Washington D.C. La speaker Nancy Pelosi, accompagnée de 13 autres élus démocratiques sont allés en Afrique et ensuite ils sont allés en Amérique latine. Qu'est-ce qui s'est passé de différent? En Amérique latine, ils sont allés s'enquérir des problèmes qui font en sorte qu'il y ait une immigration massive des peuples d'Amérique centrale vers l'Amérique du Nord. Mais la speaker Nancy Pelosi est allée faire en Afrique? Ce sont des questions que nous, de la diaspora,
mais revenons à ce sujet, Florence. En tout cas, Florence, le Centre national immigrant justice a d'ores et déjà indiqué qu'il allait contester devant les tribunaux ces nouvelles règles mises au point par Stephen Miller, conseiller de Donald Trump. Pour l'organisation, il s'agit d'une politique motivée par la discrimination raciale. D'après des experts, le document de 837 pages est le plus draconien de toutes les mesures prises jusqu'ici par l'actuel administration américaine en matière d'immigration. Professeur Emilio Viano, partagez-vous cet avis des mesures peut-être les plus draconiennes qu'on a vues depuis l'entrée en fonction du président Trump?
Oui, je suis d'accord que ce sont, comme on les a décrits, les mesures les plus draconiennes, particulièrement parce qu'ils ont des conséquences sur des personnes qui sont déjà ici légalement et qui attendent naturellement sa carte verte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont des immigrants ici ou qui se sont mariés et peut-être ils ont une famille, ils veulent se transformer en résident permanent ou citoyenne et attendent naturellement la décision du gouvernement. Ils peuvent se trouver dans une situation difficile, peut-être une perte d'emploi ou comme vous avez très bien dit, que fréquemment, beaucoup de migrants ont des emplois qui ne sont pas très bien rémunérés ou qui sont très instables. Ils peuvent l'avoir aujourd'hui et pas demain. Et les règles sont très, très dures. Il est suffisant d'utiliser le service public 2 mois chaque 3 ans, parce qu'il me semble, pour se disqualifier. Et on oublie aussi que plus de 87% des participants à Medicaid, par exemple, sont nés ici aux États-Unis. Ils ne sont pas des étrangers, ils ne sont pas des immigrants. Le même avec l'aide alimentaire. On parle de 85% des bénéficiaires qui sont des Américains nés ici. Les non-citoyens sont un très petit pourcentage, une 6% pour l'aide alimentaire et presque 9% pour le Medicaid. C'est-à-dire que il n'est pas vraiment un poids pour l'État, pour l'État, un fardeau pour l'État comme on le décrit. Et je pense que c'est parte d'une guerre qui a toujours eu lieu pendant des siècles, la guerre contre les pauvres. On peut parler de l'âge moyen en Europe, où il y avait l'obligation de travailler, particulièrement par exemple en Angleterre, le fameux roman de Charles Dickens sur les jeunes gens qui sont obligés à travailler parce qu'ils sont pauvres dans des conditions déplorables. Et ça a continué dans les siècles. Toujours cette méfiance de la personne pauvre, comme s'ils ne veulent pas travailler, ne veulent pas améliorer sa situation, ils veulent dépendre des autres, être un poids pour l'État. Et le soupçon qu'il cherche de s'en profiter. De l'autre côté, on voit aussi l'autre aspect, que c'est l'immigration avec d'argent. Comme vous savez, nous avons une catégorie de visa qui s'appelle EB numéro 5, qui permet à quelqu'un, en majorité, d'arriver ici avec sa famille, avec aucune restriction, s'ils vont à faire un investissement de 500 000 dollars dans les États-Unis. Et on sait, par exemple, que Kushner, le beau-fils de président Trump, et sa sœur ont gagné beaucoup d'argent en administrant ce type d'investissement pour des Chinois, par exemple. Et il semble que c'est une contradiction, n'est-ce pas, dans un système démocratique, favoriser les très riches qui n'ont pas besoin, en réalité, d'émigrer parce qu'ils se trouvent déjà très bien, ils ont 500 000 dollars pour investir aux États-Unis, et on refuse ceux qui viennent ici pour travailler et travailler durement. Et on doit aussi prendre en considération que souvent ce sont les personnes qui font des travaux que nous ne voulons pas faire. Par exemple, il y a eu cet arrêt détention des immigrants illégaux, on disait, dans le sud des États-Unis, particulièrement dans le cas du Mississippi, dans des centres où on travaille avec les poulets, on prépare les poulets pour la vente. Et c'est un travail très difficile, un travail très dangereux. Il y a beaucoup d'amputations pour la nature des machines qu'ils utilisent, et un travail qui n'est pas naturellement très attractif.
Oui, le besoin de main-d'œuvre. Mais Emilio Viano,
peut-être 4 dollars par heure.
Je m'excuse de vous interrompre. La nouvelle règle se fonde sur l'Immigration Act de 1882 qui, justement, autorise le gouvernement américain à refuser un visa à toute personne susceptible de devenir une charge publique, hein, ce qu'on appelle une charge publique. C'est donc la loi américaine sur l'immigration qui stipule que ceux qui viennent vivre aux États-Unis ne peuvent pas devenir une charge pour les contribuables. Le gouvernement de Trump a le droit d'appliquer la loi, n'est-ce pas?
Oui, oui, naturellement, mais on peut dire eu une extension de programme qui ne facilite pas obtenir un visa, c'est-à-dire par exemple la participation à Medicaid. Et ça, c'est très très dangereux parce que Nous avons besoin naturellement d'une population en bonne santé. Il pourrait être que c'est une personne qui a vraiment besoin de soins médicaux pour travailler et maintenir sa famille. Il pourrait être des enfants et qui ont besoin d'attention médicale. Et ça, c'est très, très dangereux. Il force certaines familles à renoncer à des soins de santé et à la nutrition aussi qui pourraient leur sauver la vie. Et je pense qu'il y a des dégâts ici qui se feront sentir pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas dans l'intérêt d'avoir une population qui n'est pas en bonne santé, qui n'a pas de bonne nourriture. Nous savons qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école et qui n'ont pas l'argent pour acheter son repas de midi. Et c'est très difficile pour eux de se maintenir en bonne santé.
Emilio Vianneau, vous restez avec nous, Florence Messier également. Et maintenant, Michel Joseph nous propose quelques commentaires de la page Facebook de VOA Afrique.
Moi, si c'est une très mauvaise décision. Si l'Amérique est un exemple en matière de démocratie et de civilisation, cela ternit l'image de marque du pays. Il faut permettre à chaque citoyen de ce monde de vivre là où il le souhaite. Alphonse Mbouaki. Pourquoi ne pas supprimer ces charges et laisser à ces immigrants légaux la nationalité américaine? Ils s'efforceront à s'autonomiser au lieu de dépendre des aides sociales américaines. Jim Rangar Todun Ozana. Je suis tout à fait d'accord avec Trump sur cet aspect. Quitter son pays, oui, c'est bon, parce que chacun a ses raisons, mais le renier carrément en voulant changer la nationalité est une erreur. Ta patrie reste ta patrie. Tu peux faire 100 ans là-bas en gardant ta nationalité. Trump a raison. Junior Kinumbe, je pense que les migrants doivent être bien traités par les autorités américaines parce que les migrants contribuent aussi au développement de l'Amérique et continuent à le faire. La Charte des Nations Unies parle de la protection des droits humains. Blaise Ali. La loi peut être bonne, mais son application pose problème. Un immigré ne peut être à la charge du gouvernement. Comment? Pendant qu'il est dépourvu de tout? Dans le monde, chacun a besoin de l'aide de l'autre. Danek Tisoni. Si c'était pour le luxe que les gens immigraient, le mieux pour eux serait de rester chez eux.
Voilà quelques commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Merci bien, Michel. Florence Messi, je reviens vers vous. La plupart des immigrants entrant aux États-Unis ne sont pas éligibles au programme d'aide sociale tant qu'ils n'ont pas obtenu un permis de résident, la carte verte, comme on l'appelle, qui justement fixe leur statut juridique. Mais la nouvelle mesure dévoilée par l'administration Trump élargit la notion de charge publique afin d'y inclure un plus grand nombre de bénéficiaires des aides sociales. La charge publique vise désormais tout migrant qui reçoit une ou plusieurs aides sociales pendant plus de 12 mois sur une période de 36 mois. Est-ce donc une décision pour surtout viser le plus grand nombre de personnes possibles, d'après vous?
Je voudrais faire d'abord une petite correction. Ouais. Parmi les immigrés qui ne sont pas visés par cette nouvelle mesure, il y a des exilés et il y a des réfugiés et oui. Il y a les familles des militaires, des membres en service, quoi.
Oui, d'ailleurs, et, on a dit en début.
Je pourrais dire que je pourrais répondre à votre question par un oui. Je pourrais dire non aussi. Pourquoi? Parce que quand on regarde le nombre de personnes le président Trump est en train de finaliser ou il a fini de finaliser les accords avec les pays tels que le Guatemala, dont il y aura même plus un grand nombre qui va de personnes qui va avoir accès au territoire américain, dont le problème ne sera plus, on ne parlera plus seulement de est-ce qu'ils visent un grand nombre. C'est vrai, cette mesure est salutaire quelque part, mais ce problème est déjà, je peux dire qu'il est déjà résolu pour ceux qui ont l'intention d'entrer sur le territoire américain.
Allez, très rapidement, on va prendre deux appels. Vincent Seounou du Bénin, allez-y, vous êtes à l'antenne, Vincent. Votre commentaire très rapidement, Vincent. Bonsoir.
Effectivement, je ne suis pas très d'accord avec les richissimes hommes d'affaires de Donald Trump. Parce que vous voyez, c'est un problème fondamental. Lui qui avait laissé la porte aux immigrants de venir s'installer dans son pays et jusqu'à donner les baccalauréats américains qui appelaient bachelor. Mais si aujourd'hui il a pris cette décision pour pouvoir écarter ces immigrants, c'est un problème. Aucun immigrant n'en a demandé à avoir les cartes vertes.
Voilà. Vincent, merci bien, Vincent. Allez, on va donner la parole maintenant à Asmaïlou. Asmaïlou, très rapidement également, du Togo. Asmaïlou, oui, votre commentaire, vite.
Oui, moi je pense que parmi ces migrants, il y a la jeunesse active qui peut aussi contribuer leur main d'œuvre pour l'Amérique.
Ouais, très bien.
Bon, tout ça là.
Oui. Merci Asmaïlou, merci et bonne soirée chez vous là-bas au Togo. Emilio Vianeux pour la Maison Blanche. Beaucoup d'étrangers, de membres de leur famille ont profité du généreux système d'aide publique, des ressources limitées qui auraient sinon pu bénéficier à des Américains vulnérables. La mesure fait partie de la politique engagée, on le sait, par Donald Trump afin de limiter l'immigration légale et illégale. Comme en 2016, la question va-t-elle être au cœur de la campagne pour sa réélection en 2020?
Oui, oui, c'est ça. Je pense que ce sont toutes des mesures, des politiques qu'il a décidé de présenter pour garantir sa réélection. Nous sommes déjà en pleine campagne de réélection et beaucoup de décisions du président sont prises dans ce sens. Et il y a toute une base des électeurs pour le président qui l'ont voté naturellement président, quoique il a perdu 3 millions de votes au niveau national, et qu'il veut naturellement conserver et il utilise des exagérations. Ce n'est pas vraiment vrai qu'il y a sept milliers de personnes qui arrivent pour profiter, pour les dépenses de l'État, pour être un fardeau, pour que l'État s'en prenne en charge. C'est une exagération, comme nous savons, que malheureusement notre président souvent fait. Et quand on parle, par exemple, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, d'autres pays dans le monde, et on dit, oh, il devrait se prendre charge de son propre peuple. Mais on doit aussi prendre en compte que, par exemple, le président Trump a coupé toute l'aide aux pays de l'Amérique centrale. Et c'est une contradiction. On dit, vous ne devez pas permettre à votre gens qui sont pauvres de venir aux États-Unis parce que nous ne le voulons pas. Vous devez vous prendre en charge d'eux et créer d'emplois dans votre pays. En même temps, on dit, l'aide qu'on vous donne jusqu'à maintenant a cessé.
Allez, on va permettre à Florence Messi de réagir très rapidement. Merci, professeur. Florence, une petite réaction à ce que vient de dire le professeur Vianeux?
Je dirais au professeur Vianeux que l'Amérique a déjà ses pauvres. L'Amérique a déjà ses pauvres et il y a déjà beaucoup d'immigrants ici dont l'Amérique a besoin de résoudre pas mal de problèmes pour eux. Hier encore, j'étais dans j'avais pris un Uber et le chauffeur était un Soudanais et il m'a dit ceci: lorsque vous passerez à l'antenne, passez ce mot-là pour moi. Je n'aime pas le président Trump, je ne l'aime pas du tout. Par contre, je suis contre ce qui se passe à la frontière sud de l'Amérique. Je ne voudrais pas que mon argent, que je travaille aussi durement, puisse bénéficier aux personnes qui ne vont pas contribuer tout de suite à notre société. Je lui ai répondu, mais de façon ironique, vous savez, les coussins sociaux sont faits pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, mais en même temps, elles voilà. sont pas
un débat bien intéressant. En tout cas, on vous invitera une prochaine fois encore. Et Florence, merci. Voilà une de très rares voix africaines qui viennent défendre le président Trump. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'Amérique. Et vous, un grand merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie nos invités, Florence Messi, membre du Parti républicain, et le professeur Emilio Viano de l'American University. Merci à toute l'équipe, Michel Joseph, Pierre Minkoyawid.